quelle sédée là si vous n'avez pas reçu même dans un premier dans un texte, parce que c'est le texte qui traite de la séparation et de la répétition, je ne les ai pas encore mis sur la page. Il y a le texte sur l'aliénation et sur cette page. Et là, ici, il s'agit de l'aliénation. Il s'agit d'écrire en logique tout à fait standard ce que Lacan appelle l'aliénation, qui est, dit-il, la première opération qui cause le sujet. C'est dans position de l'inconscient. Position de l'inconscient, c'est un texte de 64. Quand on voit tout ce qu'on peut en tirer, on s'aperçoit qu'effectivement, il n'a pas été beaucoup lu. C'est un peu forcé, puisqu'il est contemporain du séminaire Les Quatre Concepts Fondamentaux. Et tout le monde est forcé de lire ce séminaire, Les Quatre Concepts Fondamentaux. Et du coup, on n'a pas lu Position de l'inconscient. Moi, je vous conseille de lire Position de l'inconscient pour lire, justement, même si vous lisez le séminaire et le séminaire, les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Il y a des précisions dans Position de l'inconscient qui rendent visible le séminaire. Il y a des indications dans le séminaire qui rendent visible Position de l'inconscient. Ça se correspond, mais ce n'est pas identique. Par exemple, je vous le défie de trouver la séparation, la définition de la séparation dans le séminaire. L'aliénation, elle est amplement commentée dans ce séminaire 4 ou 7, puisque Lacan donne les exemples synthétiques qu'il a fabriqués pour nous. Ça semble synthétique a priori, c'est-à-dire que ce que Lacan dit des mathématiques, donc on a l'impression que la bourse et la vie, c'est une structure aliénante. Synthétique a priori, ça veut dire que c'est étonnant, mais c'est comme ça. C'est un Kant qui, dans la critique de la raison pure, il se pose la question. Comment se fait-il qu'il puisse y avoir des concepts? Des jugements, il dit, synthétiques a priori. Ben voilà, la bourse ou la vie, si vous y réfléchissez un peu, c'est pas comme le vrai logique et le faux logique, qui aussi sont dans une relation d'aliénation, mais là, pour parler du vrai logique et du faux logique, il faut commencer à faire du calcul logique. Tandis qu'avec la bourse ou la vie, vous êtes censé savoir à peu près, on a une idée qui que le fait que ce soit la vie qui s'oppose à la mort, si on donne la vie, il a la mort, et qu'un mort, il n'a rien à faire avec une bourse. Donc, il y a quelque chose qui doit se déduire pour vous, c'est que la proposition aliénante qui est faite d'avoir à choisir entre la bourse ou la vie, c'est. Il n'y a qu'une seule solution, c'est de donner la bourse et de garder la vie, au moins. Ça se traduit par le fait, vous voyez, qu'il n'y a qu'une seule place vide ici, qui n'est pas assurée. Les autres sont impraticables. En logique, elles sont fausses, nécessairement fausses, mais ici, elles sont en plus, on peut dire d'un point de vue conceptuel, à propos de ces deux mots, de ces deux noms qui sont la bourse et la vie. Eh bien, de garder la bourse et la vie, ou d'avoir ni la bourse ni la vie, c'est ce que semble rejeter déjà la différence symétrique entre la bourse et la vie. Si ça c'est alpha, c'est la bourse, et anti, c'est la vie. Et vous voyez qu'il n'y a pas de bourse sans la vie. Donc il n'y a qu'une chose à faire, c'est donner tout, c'est donner la bourse et de parler que la vie. La vie est quand même l'amour. Ça, c'est le choix forcé. Ces hachures-là, dans cette zone-là, c'est le choix forcé. Donc, cette formule-là, hein, cette formule-là qui est synthétique, ça correspond aux hachures dans la zone 1. Je mets 1 ici. Et cette différence symétrique d'aspect, hein, qui va être dissymétrisée par la, par le choix forcé, ça on l'appelle choix forcé. Alors je fais usage aussi d'un autre texte de Lacan qui traite de la même chose, et cette fois c'est le compte-rendu que Lacan a rédigé, qui est pour le, pour son enseignement, c'est le compte-rendu de l'année de la logique du fantasme. Alors ça, ça se trouve dans les autres écrits, dans les écrits deuxième volume au seuil, la deuxième partie du livre. Dès la première page, vous allez rencontrer cette différence morganienne d'aspect, morganienne c'est pour dire symétrique, hein, qu'un choix forcé rend dissymétrique. Alors, les zones, les hachures dans les zones 2 et 3, ça correspond, 2 ici, 3 ici, ça correspond à cette différence qu'on appelle la disjonction exclusive. Il n'y a pas d'intersection. Bon, donc je vous ai déjà expliqué que dans les calculs, si on suit Lacan jusque-là, on voit apparaître trois types de disjonctions. Le ou inclusif, comme ça, donc, qui va avoir quelque chose à voir avec l'union ensembliste, le ou exclusif, comme ça, bon, il y a des générations de lecteurs de Lacan déjà, parce que ça fait quand même un moment qu'il a fait ça, il a fait ça dans les années 60, donc ça fait plus de 40 ans, de 70, et 80, les 90 maintenant, les 100, enfin c'est 2000. Ça c'est le ou exclusif qui exclut l'intersection, et puis donc Lacan il nous montre qu'il y a une troisième disjonction. Ah oui, il n'y a pas l'extérieur. Et là il n'y a pas l'extérieur, il n'y a pas l'intersection, et il n'y a même pas cette zone-là. Voilà. Ça c'est le ou, le vel. Ça c'est le vel, ça c'est le hôte, ça c'est le ou. Bon, et bien contrairement à ce que dit Madame Imbert, on voit que dans les calculs, on voit apparaître l'écriture de trois négations, de trois ou, qui se disent tous les trois en français ou. La langue les distinguera. La bourse ou la vie. Le fromage ou le dessert. Dans l'immédiate après-guerre, c'était un ou inclusif, et puis c'est devenu dans les années plutôt 60, c'est devenu un ou exclusif, parce que la crise économique commençait à menacer dans les restaurateurs, dans les routiers, ils offraient plus dans le menu les deux. Il fallait choisir. Bon. Donc, ça se dit où, et ça ne se distingue pas dans la langue, et ça se distingue dans l'étape de vérité, par exemple. Mais c'est vrai que c'est un peu raide, il faut être Lacan pour avoir repéré que ne pas avoir le choix, c'était un choix, mais un choix forcé. Le choix, ça suppose quand même une certaine symétrie, vous dites quand on vous propose où, ceci ou cela, vous dites bon, il faut quand même qu'ils soient un peu symétriques tous les deux. Ouais. Sinon, c'est pas tellement la peine de nous demander notre avis. Et bien, c'est exactement ça l'aliénation. C'est pas la peine de nous demander notre avis, c'est pour ça que ça énerve. Parce que c'est une question qui est posée comme une alternative, comme un choix, et qui se révèle de ne pas présenter de choix. Bon. Alors ça, on va passer là-dessus. Mais j'ai quand même, je vous ai quand même montré. Alors là, il y a un article dans la page. Ça, si alpha c'est le faux, ou le vide en semblis, si grand I c'est le vrai, logique, hein, ou le référent, on peut appeler ça, on va l'appeler grand I barré, hein, j'ai montré que le vrai et le faux de Frege, la grande intuition de Frege, Frege l'intuitionniste de la vérité, pas loin, derrière lui il y a Wittgenstein, et puis alors, vous avez déjà dit Russell, lui, quand il comprend rien du tout à ça. Donc Frege, qui a beau avoir voulu faire une idéographie, c'est-à-dire quelque chose, une écriture, c'est-à-dire quelque chose que certains vont croire, ils vont se mélanger entre Cantor, la théorie des ensembles, qui est l'argument de Hilbert, le formaliste, et puis Frege. Parce que Frege, on veut écrire une idéographie. Alors, Frege, on aurait tendance à penser que c'est un. Certains l'accusent de logicisme, c'est faux. Frege, il n'est pas logiciste, parce que logiciste, ça veut dire ceux qui prétendent réduire les mathématiques à la logique. Frege, il fait très bien la différence entre justement la logique et l'arithmétique, les mathématiques. Et il veut construire une idéographie qui est le composant logique qui accompagne raisonnement arithmétique. Et lui, il l'écrit même en marge, il l'écrit en avant. Donc il n'est pas. Il peut paraître formaliste, puisque une idéographie, c'est un système d'écriture. C'est vrai qu'il voulait mettre Kant à l'épreuve, là, les histoires de jugement analytique et synthétique, a priori et a posteriori. Il le dit explicitement dans les fondements de l'arithmétique, il voulait le mettre à l'épreuve d'une idéographie, c'est-à-dire une écriture assurée qui permette de bien voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe. Puisque Kant, il dit que 7 plus 5 égale 12, c'est synthétique a priori. Je vous donne tout de suite les tuyaux pour voir qu'est-ce qu'il avait derrière la tête. Kant, il avait croyé que pour apprendre à Kant, que le calcul arithmétique, c'était ça. Vous voyez ? C'est créé. Voilà. Si je prends trois créés, et deux créés, je les ajoute, ça fait cinq créés. Voilà ce qui est synthétique pour moi. Ça, c'est une réalisation en termes de créés. C'est une réalisation calcaire de ce calcul arithmétique dont les créés n'ont rien à faire. Je ne vais pas la preuve, je ne vais pas dire qu'elles n'ont rien à cirer, mais c'est à peu près ce que je veux dire. C'est-à-dire que les créés, elles s'en fichent absolument d'être 3 ou d'être 2. Et c'est comme les couleurs, d'ailleurs, d'être vert. Si vous n'avez pas vert ou bleu dans votre langue, je ne vais pas vous parler des Bretons, mais le vert n'existe pas s'il n'y a pas le nom. Si dans votre langue vous n'avez pas rouge, ben, le rouge il n'existe pas. Vous avez quelque chose qui va se retrouver entre le orange, je ne sais pas. Et vous avez le vert, par exemple, c'est un jaune plutôt bleu ou un bleu plutôt jaune, s'il n'y a pas vert. Vous pouvez me dire que vous voyez bien les tranches de cassate comme des glaces italiennes quand vous voyez un arc-en-ciel, mais c'est parce que vous avez appris votre langue. C'est parce que vous êtes déjà. Quand vous voyez se découper, lisez la phénoménologie de la perception de la Lopouti, c'est bourré d'exemples de genre. Vous savez, quand j'étais enfant, la télévision française avait même inventé un carré blanc pour indiquer qu'il ne fallait pas que les enfants regardent ça le soir dans un coin de l'écran. Alors c'était une forme de censure, mais c'est pas une censure très dure, parce que c'était pour dire, pour prévenir les parents, il ne faut pas que les enfants regardent. Maintenant, Lacan évoque l'expérience qui est décrite par Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception. C'est l'expérience qui consiste à mettre un éclairage indirect qui va créer une sorte de nuée comme ça dans la pièce, qui est un éclairage faible. Il y a une seule source, mais qui est comme ça diluée. Et puis, il suffit d'introduire un carré blanc, un petit morceau de papier découpé, ou de carton découpé blanc, dans cet espace lumineux pour que, pof, le cône de lumière apparaisse au sujet qui le voit. Et donc, vous voyez, Merleau-Ponty, il a donné l'idée comme ça, qu'il y avait une espèce de mutation du sujet qu'il fallait provoquer chez les Français, comme ça, à la télévision, hop, on mettait un carré blanc dans le camp de télévision, dans le coin en bas. Tout de suite, vous aviez toute la famille qui était saisie, et le père proposait d'aller coucher les enfants. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de synthétique, de synthétique a priori, parce que Kant, lui, ce qu'il tracasse, c'est que si c'est synthétique, il a plutôt tendance à considérer que les sciences, c'est synthétique, mais a posteriori, que le fait d'observer les choses ajoute du concept, ajoute du jugement au jugement. Hein? Il a cette épistémologie qui est encore aujourd'hui dominante, qui est croire que la science consiste à observer les choses et à raffiner les concepts avec des concepts de plus en plus fins grâce à l'observation des objets qui sont des concepts qui sont encerclés par des concepts plus gros. Et l'analyse va permettre de les séparer, de distinguer des sous-concepts, des cercles plus petits. Ça, c'est ça ce que Lacan appelle faire de la topologie. Hein, c'est comme dans la syllogistique d'Aristote, ce sont des cercles, avec des cercles qui s'intersectionnent et qui font des intersections qui sont plus petites que les cercles eux-mêmes. Et puis vous voyez que vous avez... Vous voyez, la syllogistique d'Aristote, ça commence avec 3. Et grâce à vous, on sait qu'on peut en mettre maintenant une quantité autant qu'on veut. Moi, je vous propose d'en mettre 4. Voilà. Mais pour les mettre tous les 4, et de manière à obtenir une certaine symétrie entre les 4, je ne pars pas, j'explique ça dans mon texte, je ne pars pas du 3, je pars du 2, et je rajoute les deux autres, là, comme des espèces de... Ça, c'est mon expérience des dessins de nœuds et de chaînes, hein, des chaînes à 4 qui me font de cette manière-là la disposition de ronds. Bon. Donc, de la syllogistique d'Aristote jusqu'au nœud borroméen de Lacan à 3, vous avez cette disposition à 3. Tout ça, c'est l'idée qu'on a d'observer le monde et que le synthétique, ça ajouterait au concept, ça ajouterait par l'analyse des éléments en concept, une analyse plus fine. Plus fine, ça veut dire qu'il va y avoir une sorte de filtrage avec des recouvrements, des intersections, c'est ce qu'on fait dans la topologie avec les ouverts, les fermés. Bon. Ce qui fait que Lacan, il associe ça à la topologie. Mais chez Aristote, il n'y a pas. Hein, dans la syllogistique, d'ailleurs, Aristote, il ne faisait pas des ronds, il écrivait des énoncés catégoriques, mais il n'y a pas de. Des croisements, on s'en occupe pas. Lacan, à un moment, c'est ça qu'il faudrait préciser. C'est pourquoi Lacan, à un moment donné, introduit les dessus-dessous dans ses ronds. Parce qu'initialement, c'est encore que des graphes. Et Lacan, à une époque, il a étudié les graphes. Il a inventé la technique du point de capiton, qui est déjà une technique topologique, mais qui n'est pas encore celle qu'on retrouve avec le nœud. Alors, vous voyez que cette aliénation serait astrologique. Vous trouvez ça, alors je vous donne l'adresse, je remets pour ceux qui ne connaissent pas. Vous pouvez trouver un exposé sur l'aliénation, donc, et le vrai et le faux logique, et le vrai logique. Donc on va l'appeler le vrai nécessaire, pour convenir après le. Et le faux nécessaire, il y a une aliénation entre ces deux-là. Il n'y a pas d'aliénation entre le vrai et le faux constatif, entre le vrai et le faux justement synthétique, entre le vrai et le faux qui s'intéresse seulement à la vérité du fait, par exemple, que ce bâton de craie est blanc. Ce bâton de craie est blanc est vrai. Bon. Alors vous allez dire, mais alors il y a plusieurs vérités, vous êtes en train de raconter. Il y a plusieurs vérités, c'est pas possible, ça. Même Kazievitch, ça s'en est aperçu, il n'y a qu'une seule vérité. Eh bien, oui, il n'y a qu'une seule vérité, seulement le problème, c'est que nous, on la filtre, on l'écrit. Il y a trois registres, il y a au moins trois registres d'écriture de la vérité. C'est la même, hein, c'est la même vérité, seulement le problème, c'est qu'elle est, elle peut s'écrire comme nécessaire, c'est le cas de ces énoncés. Oui. Entre le vrai, le faux nécessaire et le vrai nécessaire, il y a la même aliénation entre l'amour sous la vie. N'importe quel, si vous prenez les thèses et les antithèses, c'est-à-dire les énoncés nécessairement vrais et les énoncés nécessairement faux, entre eux, si vous considérez que cela, d'ailleurs les logiciens, comme dit Frege, il n'y a que cela qui les intéresse, parce que ce sont des lois logiques ou la négation d'une loi logique. Donc Frege, il dit, on s'intéresse qu'au vrai nécessaire en logique, sinon c'est de la psychologie ou autre chose. Hein, Frege, il dit à vous, il ne faut pas introduire le temps non plus. Là, à mon avis, il est un peu. Il oublie une chose, c'est qu'il faut, avant d'arriver à la vérité nécessaire, il faut faire toute une construction qui demande du temps. Donc le temps s'efface rétroactivement, comme la parole, mais la parole et le temps sont nécessaires pour faire de la logique, ne serait-ce que pour l'enseigner. C'est ce qui fait que ça baille un peu du côté de la formalisation qui n'est qu'un idéal. Parce qu'il y a cette présence d'une langue vulgaire, d'une langue ordinaire, d'une langue d'usage, d'une langue vernaculaire. Ça en fout un coup à ce caractère. Comment on dit quand il dit canonique, au caractère canonique de la logique. Et Frege, il a une intuition du caractère canonique de la vérité, nécessaire, des lois logiques. Mais il est un peu trop omnibulé vers ça, mais il commet des erreurs. C'est pas parce qu'il est formaliste, ça c'est très bien, il essaye de voir ce qu'il en est. Et c'est parce qu'il y a quand même une tendance au 19e siècle qui ne s'est pas arrangée depuis. Regardez, même Baudouin de Courtenay n'a pas pu développer son phonème et son école, ses élèves n'ont pas pu commencer à étudier le langage alors qu'ils avaient la notion du phonème et que les linguistes ont passé. C'est comme maintenant, c'est comme aujourd'hui, c'est très marrant. À la fin du 19e, ils passent leur temps à faire des colloques. Les linguistiques, ils ont un objet, ils ont un instrument, ils ont une notion qui peut devenir un concept, ils ont un truc formidable, un truc extraordinaire, qui s'appelle le phonème, que Baudouin continue à formuler. Hein, la différence entre la phonétique et la phonologie. La phonétique, c'est les sons, c'est le signal. Et la phonologie, ça n'a rien à voir avec le signal, sauf que ça a besoin d'avoir un signal comme support. C'est à peu près comme les craies pour Kant, vous voyez, ça, vous pouvez réaliser d'une manière calcaire l'arithmétique, ça va peut-être vous convaincre. Mais finalement, ce que ne comprend pas Kant, c'est que l'arithmétique, c'est du langage. C'est même avec la parole de la langue, et avec l'écriture, ça peut même à un moment donné se séparer de la langue, ne plus être parlé, se séparer de la parole, et devenir une écriture mathématique, qu'on appelle arithmétique. Et que contrairement, ça nous constitue tellement, si vous voulez, le phonème et l'écriture et la parole, que nous sommes très très mal placés pour pouvoir justement avoir des bonnes notions, des bons concepts, pour nous y prendre bien. Même Frege se trompe. Mais il a quand même raison. C'est absolument nécessaire de distinguer le vrai nécessaire. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de paradoxe de l'implication matérielle. Parce que ça, je peux vous montrer par des tables de vérité qu'il n'y a pas de paradoxe d'implication matérielle dans l'écriture de la vérité constative. Constater que ce bâton de craie est blanc et celui-là est rouge. Ces énoncés-là, ils peuvent être vrais. Il est vrai pour ce bâton de craie rouge, il est vrai. L'annoncer le bâton de craie est blanc, c'est vrai pour celui-là qui est blanc. Ces énoncés qui sont vrais dans certaines situations et pas dans d'autres, c'est ce que j'appelle S ici, synthétique, ou en situation, ou dans certaines situations. Et en ce moment, il fait nuit à Paris. Quand j'étais là au mois de juin, il faisait encore jour. C'est dommage, on est vers des jours raccourcis, on arrive bientôt à la moitié. moitié, hein. Ils vont nous découper encore en deux jusqu'à Noël. Bon. Alors, il fait nuit maintenant à 9h du soir. Et ben voilà, c'est synthétique. Et ben, on a toujours tendance à oublier le fait qu'on parle, le fait qu'on écrit, le fait que c'est nous qui découpons, qui faisons apparaître le cône de lumière, c'est nous qui faisons apparaître les tranches de l'arc-en-ciel, parce qu'on a des noms pour nommer les couleurs. Donc, en fin de compte, on ne perçoit que ce qu'on veut bien percevoir, ou qu'est-ce qu'on perçoit grâce au langage, qu'est-ce qu'on peut bien nommer et dire. Voilà. Alors ça fait une épistémologie qui est complètement contraire à l'épistémologie kantienne. Ça, c'est ce qu'on n'arrive pas encore aujourd'hui à admettre, et ça donne Sarkozy. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte du fait que parler mal, ça a des conséquences. Plus importantes que savoir si la gravitation de Newton... D'ailleurs, Newton, il a introduit la gravitation dans le monde. Vous me direz, ben non, mais les étoiles tournaient déjà avant lui et tout ça. Oui, mais on n'est pas sûr que la formule de la gravitation des étoiles, que les étoiles subissent et respectent, ce soit la loi de Newton. Ce qu'on sait, c'est que Newton, il a déduit de Kepler et de Galilée qu'il y avait une gravitation. Syllogisme de la science moderne. Galilée, il découvre, numéro un, que les planètes parcourt l'espace selon des trajectoires elliptiques. Et Galilée, lui, il formule ce qu'on appelle le principe d'inertie. Le principe d'inertie, il dit, si un corps ne subit pas d'influence, il va en ligne droite. Donc, vous voyez, Newton, lui, il fait un syllogisme. Vous avez deux prémices. Une prémisse entre ces deux-là, une prémisse entre ces deux-là, il fait la conclusion entre les deux derniers. Hein, si les planètes vont suivre des ellipses et qu'elles ne vont pas en ligne droite, bon, il faut au moins introduire cette négation-là. Hein. L'ellipse n'est pas la ligne droite. Alors du coup, les planètes ne vont pas en ligne droite. Donc, d'après le principe d'inertie de Galilée, les planètes subissent une influence. Donc Newton, il dit, bon, ben, il y a une influence, donc on va leur donner, pour leur faire plaisir, une formule de l'influence. Alors il bricole un truc qu'il va falloir affiner jusqu'à Einstein, hein, ça va quand même poser des problèmes aux physiciens pendant pas mal de temps, mais il est vachement bien, Einstein. Newton, il a une idée qui est géniale, il dit, comme je sais que la surface d'une sphère, hein, si je prélève un petit bout d'une surface d'une sphère, comme ça, j'ai un rayon R pour la sphère, je vais l'appeler D, qui est la distance d'un élément qui est sur la surface d'une sphère, au centre, O. Mon petit élément S, qui est à une distance D de O, hein, c'est un morceau de la surface de la sphère. Et je sais que la surface totale de la sphère, S, c'est pi D2. Je ne me trompe pas, je crois, non. Donc, vous vous souvenez de ça, la surface d'une sphère, hein, vous avez oublié?
Oui.
Les Grecs, vous savez, c'est eux qui ont utilisé la lettre pi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'un petit bout de surface, comme ça, vous voyez, si vous agrandissez la sphère, vous allez passer à D'2, le rayon, D'2. Et un petit bout de surface de cette grande sphère, comme ça, là, sur cette grande sphère, un petit bout S', hein, il va être un petit morceau qui dépend de la surface de la sphère totale, et pi D'2. Bon, plus vous vous éloignez du centre de la sphère, plus la surface grandit. Et bien c'est pour ça que quand vous êtes à la campagne et que vous avez allumé un feu dans la cheminée, quand vous êtes près du feu, vous avez chaud. Et quand vous vous éloignez du feu, ben, vous voyez que vous avez moins chaud. Quand vous allez à l'autre bout de la pièce, et vous pouvez même avoir froid. Le feu, c'est mon efficace, mais je ne ressens pas. C'est vrai aussi avec une bougie. Vous pouvez faire ça avec une bougie. Vous mettez votre main autour d'une flamme de bougie, vous brûlez. Vous la mettez un peu plus loin, vous sentez la chaleur, mais vous ne brûlez pas. Pourquoi ? Ben là, si on suppose que la quantité de chaleur émise par instant, je ne parle pas de seconde, moi je ne suis pas en train de faire un truc mesurable. mesurable. Disons, chaque instant, il y a de la chaleur qui est émise par le centre, et que il y a quelque chose qui est émis comme ça, pof, hein, la chaleur. Ça veut dire qu'on sait que c'est une agitation. Ça. Alors, on ne s'agite pas trop, on sait que c'est assez grossier. Regardez, vous avez des ici qui émet comme ça de la chaleur, et cette chaleur, elle se répartit d'une manière égale sur la sphère, comme ça. Et avec le temps, elle s'écarte du foyer et elle va de plus en plus loin. Donc, vous voyez, et dans ce rayon, il augmente. Et la chaleur que vous trouvez sur chaque élément de surface S ou S', c'est quelque chose qui va être de plus en plus, qui va dépendre de l'inverse du diamètre. Le diamètre augmente, le rayon augmente, D, le rayon B augmente, et vous avez donc un élément, la chaleur en S, ça va être quelque chose qui dépend de D2, qui va dépendre en S' de D. La chaleur, ça va dépendre de D'2, etc. C'est pour ça que dans la formule de Newton, vous la voyez, il dit une masse subit une force d'attraction, hein, en relation avec une autre masse. Si vous avez, eh bien, la force, elle dépend de M et de M', de la valeur des deux masses, et c'est divisé par D2. Et puis il y a un facteur gravitationnel qui va dépendre un peu de l'endroit où vous vous trouvez. Bon, ça veut dire que le D2, la formule de Newton, voyez-vous, c'est qu'il suppose que la traction d'une masse par une autre masse, puisqu'elle subisse une influence, on suppose que c'est cette influence, jamais personne n'a réussi à isoler le champ de gravitation. Et même le champ de gravitation, on pourrait dire que c'est le dieu de Newton, hein, parce qu'il l'a appelé comme ça. Quand les théologiens de l'époque ont dit, mais comment une masse peut-elle savoir que l'autre masse, elle pèse M', et puis que, à la rigueur, elle peut savoir qu'elle a une masse M, comment peut-elle savoir que la masse de l'autre, c'est M', et puis en plus qu'elles sont à une distance D2 et qu'il faut diviser par D2. Newton, il a dit, hypothèse non fingo. Moi, j'ai pas besoin de fin dans les hypothèses, j'en sais rien. Et puis il a ajouté en rigolant, c'est peut-être Dieu qui les pousse du doigt. Voilà, je me permets de dire que le champ de gravitation, c'est le dieu de Newton. Mais vous voyez que la science newtonienne, si vous lisez Coiré, il faut lire pour lire Coiré, il faut lire Coiré sur Kepler, c'est-à-dire c'est le monde clos et l'univers infini, il faut lire sur Galilée, vous avez les études galiléennes, ça ne traite que du principe d'inertie. Alors il y a d'autres articles de Coiré sur Galilée. Quelques autres petits articles qui sont des petits bijoux aussi. Mais enfin bon, les études galiléennes, c'est le principe d'inertie. Et puis ensuite, vous avez Newton, et bien vous avez les études newtoniennes de Coiré. Ça vous fait trois bouquins. En trois bouquins, vous allez avoir le syllogisme de la science classique. Et tout le monde a cru, et tout le monde voudrait nous faire croire encore aujourd'hui, et tout le monde croit encore aujourd'hui que la science, c'est une question d'observation des choses, ben, ce que explique Coiré dans un article magnifique qui s'appelle ça s'appelle de l'influence des doctrines philosophiques sur les théories scientifiques. Eh bien, c'est paru ça dans ses études d'histoire et de la philosophie. C'est chez Gallimard, c'est en thèse, en livre de poche, c'est accessible. C'est un petit article que Milner a oublié d'écrire. Il dit que la science moderne, elle est littérale, littéralisée, mathématique et empirique, mais il y a de quoi vraiment hurler. Enfin, ça, c'est le cercle de Vienne croit ça, Kant croit ça, Popper peut-être croit ça, bien que Popper lui moins naïf, parce que c'est pas mal ce qu'il dit sur le fait de caractère réfutable des théories scientifiques. Il dit bien que la science, elle n'est pas vérificationniste. Hein.